êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffuserons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour. Vous écoutez votre programme en français sur la radio SBS. Il est 13h. Nous sommes le mardi 23 septembre 2025. Je m'appelle Marianne Murat. Nous allons passer une heure ensemble et on commence avec le journal. À la une de l'actualité, le temps de la paix est venu. Une dizaine de pays reconnaissent l'État de Palestine lors de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Absent faute de visa, le président palestinien Mahmoud Abbas a salué une décision historique et courageuse dans une vidéo et a appelé le Hamas à rendre les armes. L'animateur humoriste américain Jimmy Kimmel fait son retour à l'antenne ce soir après une semaine de suspension. Instagram lance une nouvelle fonctionnalité pour protéger les plus jeunes. Et enfin, un mot de sport avec les Ballons d'Or 2025. Qui sont les deux joueurs, hommes et femmes, à avoir été sacrés? Réponse dans le Journal des Sports de François Vantôme. C'était un moment historique à la tribune de l'Organisation des Nations Unies à New York. Plusieurs États comme l'Australie, le Royaume-Uni ou encore la France ont officiellement reconnu l'État de Palestine. La paix est beaucoup plus exigeante, beaucoup plus difficile que toutes les guerres, mais le temps est venu, c'est ce qu'a déclaré Emmanuel Macron.
Le temps est venu d'arrêter la guerre à Gaza, les massacres, la mort, tout de suite. L'urgence nous le commande. Le temps est venu pour Israël de vivre en paix et en sécurité. De la Galilée à la mer Rouge, par la mer Morte, par le lac de Tibériade et par Jérusalem. Le temps est venu de ne plus discuter nulle part l'existence d'un État d'Israël et d'en faire une évidence. Le temps est venu de rendre justice au peuple palestinien et ainsi de reconnaître un État de Palestine, frères et voisins, à Gaza et en Cisjordanie et par Jérusalem. Le temps est venu de chasser de ces terres le visage hideux du terrorisme et de bâtir la paix. Oui, bâtir la paix, c'est ce qui nous rassemble ici. Et telle est l'espérance qui peut se construire. C'est un choix à faire et c'est notre devoir. La paix est beaucoup plus exigeante, beaucoup plus difficile que toutes les guerres. Mais le temps est venu.
Quant à Anthony Albanese, il a parlé d'opportunité de paix et de début de la fin pour le Hamas que l'Australie qualifie de groupe terroriste.
The leadership of the Arab League has added strength to these commitments. Their demand for Hamas to surrender its weapons and end its rule in Gaza has helped create this historic opportunity. A chance to deliver self-determination for Palestine in a way that permanently disarms Hamas and drives them from the region. Once and for all.
Voilà pour un extrait du discours du Premier ministre australien. L'opposition, par la voix de sa chef Susan Ley, a estimé que le moment n'était pas opportun pour une reconnaissance de l'État palestinien, le Hamas détenant toujours des otages israéliens et le conflit faisant toujours rage. D'autres pays ont également reconnu le nouvel État comme la Belgique, le Luxembourg, Malte, Monaco, le Canada, le Portugal. L'autorité palestinienne salue une décision historique et courageuse. Mahmoud Abbas, lui, n'était pas à New York, privé de visa par l'administration Trump. Il s'est donc exprimé par visioconférence, le président palestinien qui appelle le Hamas à rendre les armes.
Le Hamas n'aura aucun rôle dans la gouvernance et il devra, comme les autres factions, remettre ses armes à l'autorité palestinienne. Car nous voulons un seul État non armé, un seul système juridique et une seule force de sécurité légitime. Nous condamnons les crimes de l'occupation et nous condamnons également le meurtre et la captivité de civils, y compris ceux commis par le Hamas le 7 octobre 2023. En contrepartie, nous exigeons l'arrêt de l'expansion des colonies, de l'annexion, du terrorisme des colons et des attaques contre les lieux saints chrétiens et islamiques.
C'était Mahmoud Abbas. Israël et les États-Unis ont, eux, tous deux boycotté l'Assemblée générale. Et sur un autre thème, Donald Trump a fait savoir qu'il ne rencontrerait pas Anthony Albanese lors de cette visite, malgré le fait que le Premier ministre australien soit invité à une réception demain et que les deux hommes politiques vont s'y croiser. En parallèle, l'Australienne Zomi Francom a été honorée lors d'une cérémonie dédiée aux travailleurs humanitaires à l'Assemblée générale des Nations Unies, à New York donc. Âgée de 43 ans, cette habitante de Melbourne a été tuée en avril 2024, souvenez-vous, lorsqu'une frappe aérienne israélienne a touché un convoi de voitures alors qu'elle travaillait à Gaza, à l'organisation World Central Kitchen. Zomi faisait partie des 674 humanitaires tués dans des zones de conflit en 2024. Elle a été honorée ainsi que tous les autres et l'Australie appelle à de nouvelles protections pour ses travailleurs. Toujours en marge de cette Assemblée générale de l'ONU, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'entretiendra avec son homologue américain aujourd'hui, Donald Trump. L'Ukraine qui a affirmé reprendre du terrain dans la région de Pokrovsk à l'est du pays. Et côté russe, Vladimir Poutine vient lui de proposer de prolonger d'un an le traité de désarmement nucléaire New Start, conclu entre Moscou et Washington et qui devait expirer en février prochain. Aux États-Unis, on le disait en titre, l'animateur Jimmy Kimmel est de retour aujourd'hui à l'antenne de la chaîne ABC. À ne pas confondre avec nos confrères australiens, on parle bien ici de la chaîne américaine. Jimmy Kimmel avait été suspendu après une sortie sur l'assassinat de l'activiste conservateur Charlie Kirk, mais beaucoup y avaient vu un prétexte pour se débarrasser de l'humoriste qui irrite notoirement Donald Trump. Après de grandes discussions toute la semaine dernière sur la liberté d'expression et les pressions du président américain sur les médias, eh bien donc Jimmy Kimmel sera de retour ce mardi. On verra bien la programmation de son émission une semaine après sa suspension. À ce propos, réaction de David Cross, célèbre humoriste américain.
This whole thing about, you know, taking people off the air because of a point of view is cancel culture. That's what the right has been talking about. And so the hypocrisy and double standard is glaring. It's you know, Nova Bright.
En Australie, la polémique enfle après la panne massive d'Optus qui a empêché l'accès au numéro d'urgence. La coupure survenue jeudi dernier est déjà associée à 4 décès et relance les critiques contre le gouvernement fédéral accusé de ne pas avoir instauré de supervision indépendante du 000, pourtant recommandée après la panne de 2023. Car oui, c'est déjà la deuxième fois en 2 ans qu'une défaillance du réseau Optus empêche les Australiens d'accéder au 000, au numéro d'urgence. Donc, de plus en plus de voix réclament aujourd'hui la fin de l'autorégulation des télécoms. L'analyste indépendant Paul Budd fait partie de ceux qui plaident pour mettre fin à l'autorégulation justement du secteur.
It could well take several years for Optus to actually fix the underlying problem, you know, get rid of the underinvestment that took place in the network. And, you know, so in other words, you know, we can't wait that long for that to happen. We have to start looking at an alternative on how we can ensure that the 000 system is working in Australia. And perhaps we have to take it away from the telcos, create an independent organization who manage this system, still, of course, using the Telstra, Optus and Vodafone infrastructure.
On reste en Australie où l'autopsie de Kumanyaji White, décédé en détention après avoir été maîtrisé par la police dans un supermarché d'Alice Springs, est enfin terminée. Souvenez-vous, le jeune garçon de 24 ans atteint de troubles cognitifs est mort sur le sol du rayon confiserie d'un supermarché Coles après avoir été interpellé par des policiers en civil à la suite d'une altercation présumée avec des agents de sécurité. Le commissaire par intérim du territoire du Nord, Martin Doll, a déclaré que le dossier de preuve avait été transmis aux procureurs qui décideront maintenant si des charges doivent être retenues ou non contre les policiers impliqués. Et même son cloche du côté de la directrice exécutive Leanne Liddell qui appelle à la patience afin de laisser la justice suivre son cours et permettre à la famille White de bénéficier du temps et du soutien nécessaire.
The brief of evidence is now with the Director of Public Prosecutions and we will wait their response as to what happens next, which may or may not include charges against parties. This is not a decision for the Northern Territory Police. and it is important that everyone understands the independence of that process. I know that there will be anger and hurt in the days and weeks ahead, and I want to appeal for calm and for the respect as the process by the Director of Public Prosecution runs its course.
Dans un tout autre registre, Instagram a lancé en Australie un système de vérification d'âge basé sur l'intelligence artificielle quelques mois avant l'interdiction d'accès aux réseaux sociaux pour les moins de 16 ans. Alors depuis hier, ce dispositif utilise l'IA pour identifier les utilisateurs soupçonnés d'avoir moins de 18 ans avec la reconnaissance faciale. Et dans ce cas-là, s'ils ont l'air plus jeunes, l'application appliquera automatiquement des paramètres comme des comptes ados, des protections sur les contacts possibles et les contenus visibles. La directrice régionale des politiques publiques de Meta, Mia Garlick, affirme que l'entreprise s'engage à renforcer sans cesse la protection des jeunes. Écoutez-la.
And we've been really encouraged by the progress, with 9 out of 10 active teen accounts remaining in protections to reduce unwanted content.
Allez, on fait un point sur la météo de ce mardi après-midi. Grand soleil à Perth, comptait 28 degrés. Nuageux à Adelaide, Melbourne, Hobart et Canberra, il fait environ 17-18 degrés. Du soleil à Sydney, 19 degrés, 25 à Brisbane. Des averses à Cairns, 30 degrés. Et grand soleil à Darwin, comptait 36 degrés. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur SBS French. L'émission, elle, n'est pas terminée. On se retrouve dans un instant pour le journal des sports. Il est signé François Vantôme.
If you're shopping while working, eating, or even listening to this podcast, then you know and love the thrill of a deal. But are you getting the deal and cash back? Rakuten shoppers do. They get the brands they love, savings, and cash back. And you can get it too. Start getting cash back at your favorite stores like Levi's, Plow & Hearth, Adidas, Sephora, and Neiman Marcus. Stack sales on top of cash back and feel what it's like to know you're maximizing the savings. And it's easy to use. And you get your cash back sent to you through PayPal or check. The idea is simple. Stores pay Rakuten for sending them shoppers, and Rakuten shares the money with you as cash back. Download the free Rakuten app or go to Rakuten.com to start saving today. It's the most rewarding way to shop. That's Rakuten. Rakuten.com.
Bonjour à tous, François Vantôme à vos côtés pour couvrir l'actualité sportive qui a de forts accents tricolores aujourd'hui, avec entre autres le sacre irrésistible d'Ousmane Dembélé, Ballon d'Or 2025, Ligue 1, Marseille retrouve enfin la clé contre Paris, retour sur les championnats du monde d'athlétisme à Tokyo, les performances et déboires de l'Australie, et enfin la Formule 1 avec un Piastri à côté de la plaque. Un sacre attendu au bout d'une saison magistrale, le Parisien Ousmane Dembélé a remporté le Ballon d'Or, mettant fin au suspense l'opposant au Barcelonais Lamine Yamal dans une cérémonie qui a fait la part belle au PSG champion d'Europe. Dembélé était favori avec ses 35 buts et 16 passes décisives, toutes compétitions confondues. Sa victoire finale en Ligue de Champions, mais aussi son influence dans le jeu de la meilleure équipe du continent. On écoute Dembélé après sa victoire.
Ils ont toujours été là pour moi. Ils m'ont soutenu dans les moments difficiles. Aussi à mon agent, qui a toujours cru en moi. Il avait dit qu'un jour j'allais gagner le Ballon d'Or. Il m'a toujours aidé, il a toujours cru en moi, il m'a toujours motivé. À mon meilleur pote. Avec mon meilleur ami, depuis 4-5 ans, on a tout vécu ensemble. On a tout fait ensemble.
« C'est d'ailleurs toute cette équipe parisienne qui accapare le classement avec 5 joueurs dans le top 10. Derrière Dembélé, Vitinha 3e, Hakimi 6e, Donnarumma 9e et Nuno Mendes 10e. Outre le meilleur gardien à Donnarumma, Luis Enrique a été sacré meilleur entraîneur. Le prix Raymond Coppa du meilleur jeune n'a pas en revanche échappé à Lamine Yamal devant les Parisiens Désiré Doué et João Neves. Dembélé succède à l'Espagnol Rodri. Le précédent ballon d'or français remonte seulement à 3 ans avec Karim Benzema. Sans être une personnalité médiatique, l'international français jouit aussi d'une bonne image et est un modèle de fair play sur le terrain. L'un des critères regardés par les votants, 100 journalistes de toute nationalité. Côté féminin, pour la première fois, la cérémonie offrait tous les équivalents féminins des trophées masculins. Aitana Bonmati, meneuse de jeu du Barça et de l'Espagne, a remporté son 3e ballon d'or consécutif, même si elle a perdu les 2 finales européennes, Champions League et Euro. Sa compatriote Mariona Caldentei, attaquante à Arsenal, avec qui elle a remporté la Ligue des Champions, a terminé 2e devant l'anglaise Alessio Russo. Toujours du football, 24 heures après le déluge qui s'est abattu sur Marseille et qui a provoqué le report du match de Ligue 1, Marseille tient enfin son classique. 14 ans après sa dernière victoire à domicile face au PSG en championnat, l'OM a fini par retrouver le goût du succès face à son vieux rival, handicapé par plusieurs absences, en s'imposant 1-0 au terme d'un match intense. Dans une fin de match brûlante qui a vu Roberto De Zerbi être exclu, le Vélodrome a sauté, hurlé, puis est entré en éruption. 14 ans, c'est vraiment long. La dernière victoire marseillaise en Ligue 1 face au club de la capitale remontait en effet à novembre 2011, une époque où le coach marseillais s'appelait Didier Deschamps et où le Qatar n'avait pas encore pris les commandes du PSG. Le PSG glisse à la 2e place à égalité de points avec Monaco, Lyon et Strasbourg. Pour Marseille, désormais 6e, un vieil affront est lavé et la saison est enfin lancée. Auteur d'un chrono époustouflant, Remco est devenu champion du monde contre la montre pour la 3e année consécutive dimanche à Kigali. On retiendra aussi la superbe 2e place de l'Australien Jay Vine à 1 minute 14 et la 3e place du Belge Ilan Van Wilder qui complète le triomphe de la Belgique à 2 minutes 36. Du côté français, c'est la déception avec la 8e place de Bruno Armirail et surtout la 16e place de Paul Sexas, extrêmement déçu. Remco s'est même payé le luxe de doubler Pogacar, parti 2 minutes et demie avant le champion belge. Poggi a été avalé tout cru.
Ouais, je pensais pas, c'était pas l'objectif de la journée, mais c'est clair que dès que je l'ai vu sur code de péage, je sentais que je rapprochais assez vite. Peut-être j'ai été un peu au-dessus de la limite pour le rattraper aux premières parties des pavés parce qu'après j'ai vraiment eu un peu de difficultés pour garder la vitesse. Mon écart il était déjà fait sur le 2e et sur le 3e, donc ça changeait pas beaucoup, mais bon, c'était bon pour le moral et pour la suite aussi.
Pogacar, le jour de ses 27 ans, échoue à la 4e place à 1 seconde du podium. Il n'est tout à coup plus sûr de rien pour la course en ligne, l'épreuve Rennes qui aura lieu dimanche prochain, dont il est le tenant du titre et jusque-là le grandissime favori. On l'écoute.
Of course, I'm disappointed. Remco called me, but he's so fast. It's incredible how good he is in this discipline. Chapeau, really. What a ride by him, but I saw that I'm 1 second off podium, which is really bittersweet, because maybe if I knew that I'm 1 second in the last kilometer, I would have a bit of extra motivation, but I didn't know, and today I will probably regret, but tomorrow is a new day, and I can be happy with how I suffered today. It was not my best performance, but given the circumstances before Canada, I couldn't finish my block of training on the TT bike, and I can be satisfied, and I'm looking more forward for a Sunday on road race anyway.
Côté féminin, la Suissesse Mélène Rösser, 34 ans, remporte la médaille d'or. Athlétisme, l'Australienne Nicola Olislagers, vice-championne olympique, a décroché dimanche soir à Tokyo son premier titre de championne du monde du saut en hauteur en franchissant 2 mètres. Médaillée de bronze aux mondiaux de Budapest en 2023, Holly Slagers devance la Polonaise Zotzic qui a réussi 2 mètres aussi, mais avec plus d'essais que l'Australienne. L'Ukrainienne Maouchik, championne olympique et recordman du monde, partage la 3e place avec la Serbe Topic à 1,97 m. Le concours du saut en hauteur a été interrompu pendant de longues minutes à cause des pluies diluviennes qui sont tombées sur le stade national de Tokyo. On écoute Holly Slagers.
Yeah, you know, tonight wasn't a holiday. It was long and it was wet. But, you know, it can be raining on the outside, but when you have light on the inside, it feels like minutes, not hours. And from 2017, I came last at my first World Championships. I no-hide it, but I was out there and I felt like I belonged and I loved, like, having a front row seat to the best high jump competition in the world. And because that value didn't get linked to my performance, tonight going in as like a favorite, again, it wasn't a performance. It was really like Jesus transformed my heart. He's renovated my body around that heart with his love. And every moment, everything that I do at training is just like out of love. And so jumping, I was like, I just get to worship you in the rain. Like, this is awesome. And so, yeah, like tonight, like, of course, it's really special with world champion and, you know, glory, and you get this, but yeah, I just give it back to him and I just go, like, that was a fun day at the office.
Athlétisme toujours, l'équipe masculine australienne du relais 4x400 pensait s'être qualifiée pour la finale des championnats du monde avec un nouveau record national de 2 minutes 58. Cependant, les célébrations ont été de courte durée, l'équipe ayant été disqualifiée pour un passage de témoins irrégulier. Bien que l'athlétisme australien ait fait appel de cette décision, les images étaient sans appel et la décision a été maintenue. Cette course aurait battu un record qui tenait depuis les Jeux olympiques de Los Angeles en 84. Le même sort a frappé les Australiennes dans le relais 4x100 mètres, tandis que l'équipe du 4x400 n'a pas réussi à se qualifier. Formule 1, le néerlandais Max Verstappen Red Bull s'est montré intouchable dimanche au Grand Prix d'Azerbaïdjan, où McLaren a sombré avec l'abandon de l'Australien Oscar Piastri, leader du championnat, et la 7e place seulement de son coéquipier britannique Lando Norris. Seulement 9e sur la grille après une sortie de piste en qualification samedi, Piastri a quasiment calé après avoir anticipé le départ et se retrouver dernier du peloton avant de bloquer ses roues au freinage du virage 5 et de foncer droit dans le mur de protection. Comme il y a 2 semaines, à Monza, le quadruple champion du monde a réalisé le doublé, pole position samedi et victoire dimanche, confirmant ainsi les progrès de sa monoplace Red Bull. Même s'il semble trop distancé pour pouvoir rêver d'une 5e couronne mondiale consécutive, le Néerlandais a toutefois mis la pression sur les 2 pilotes McLaren. En effet, il ne compte plus que 69 points de retard sur Piastri et 44 sur Norris et pourrait briguer un peu plus qu'un simple rôle d'arbitre du duel annoncé entre les 2 coéquipiers. C'est la fin de ce journal des sports. Il est temps de se quitter. Belle journée à tous.
L'amour qui fait tomber les cheveux, l'amour qui nous bande les yeux, l'amour vendu au plus sensible par des putains de vicieux, l'amour finalement au pire des tableaux, au croupissant, la laissant éternellement belle au bois dormant. La laissant éternellement belle au bois.
Vous reconnaissez sûrement sa voix si emblématique, c'est Zao de Sagazan sur les ondes de Radio SBS avec son titre Les Dormantes. Allez, on passe à la chronique politique, c'est François Vantôme encore une fois qui nous parle de climat. À tout de suite.
Les défenseurs du climat affirment que l'objectif de réduction des émissions fixé par le gouvernement fédéral pour 2035 est dangereusement insuffisant, tandis que la coalition estime que son plan relève du domaine de la fantaisie. Les ministres du gouvernement s'efforcent actuellement de justifier cet objectif auprès du public et de la communauté, alors que la coalition est sous pression pour présenter sa politique climatique. C'est le conteur grec antique Ésope qui disait que lorsqu'on essaie de satisfaire tout le monde, on ne satisfait personne. C'est la leçon que semble avoir tirée cette semaine le gouvernement travailliste d'Albanese après avoir annoncé son objectif de réduction des émissions pour 2035. Fixant une fourchette de réduction de 62 à 70% d'ici 2035 par rapport au niveau de 2005, le ministre du changement climatique, Chris Bowen, affirme que cet objectif est à la fois ambitieux et réalisable.
As you'd expect with such an announcement, there's plenty of people who think it's too high, plenty of people who think it's too low, but it's an achievable, ambitious plan, one that's in the economic best interest of the country, as is clear from the Treasury modelling and the CSIRO modelling, and it's the right plan for Australia.
En fixant le plafond à 70%, le gouvernement a rapproché son objectif le plus ambitieux de celui de 80%, réclamé par des groupes tels que l'Australian Conservation Foundation. Mais en fixant le seuil minimum à 62%, le gouvernement a tenté de répondre aux demandes des groupes industriels et commerciaux qui ont averti que des réductions comprises entre 65 et 75% pourraient s'avérer extrêmement difficiles à mettre en œuvre. Tiraillé entre ces deux positions, le gouvernement a tenté de trouver un compromis, ce qui a suscité l'inquiétude tant des écologistes que des industriels. Pour défendre cette fourchette, le gouvernement affirme que des pays comme le Brésil, la Nouvelle-Zélande, le Canada et la Norvège ont tous fixé une fourchette pour leur objectif 2035. Chris Bowen affirme que, par rapport à d'autres économies, l'objectif de l'Australie est l'un des plus ambitieux.
It's ambitious by international standards. Compared to like-minded similar economies. It is ambitious in terms of halving emissions from today, but it's achievable. A target's got to be two things, ambitious and achievable. A target over 70 is not achievable, is not. That advice is very clear. We have gone for the maximum level of ambition that's achievable.
Au départ, l'autorité sur le changement climatique avait proposé un objectif de 65 à 75%. Si les objectifs supérieurs à 70% ont suscité une levée de boucliers dans certains secteurs industriels, Amanda McKenzie, PDG du Climate Council, affirme que des modélisations approfondies justifient de relever encore davantage cet objectif.
There are many independent experts that put forward that 75 plus target is very doable, from Deloitte to EY to a group of 500 businesses that came out in the last month. So certainly the 70% target is doable and we need to get on with it.
La dirigeante des Verts, Larissa Waters, estime que l'objectif fixé pour 2035 manque clairement d'ambition réelle.
Look, a range of 62 to 70 means 62. The only reason they put a range in place is so that they can hit the lowest end of the range and then claim to be heroes. Well, this target is so appallingly low, it will not keep us safe.
De ce côté, la chef de l'opposition, Susan Lee, estime que cet objectif manque de crédibilité et ne fournit pas suffisamment de détails sur les coûts. Selon les estimations de l'Australian Energy Market Commission, si le développement des énergies renouvelables et des infrastructures se déroule comme prévu, le déploiement coordonné des énergies renouvelables permettra de réduire les prix de l'électricité résidentielle de 13% en 10 ans. Elle montre également que les coûts énergétiques moyens des ménages pourraient baisser d'environ 1000 dollars par an au cours de la prochaine décennie. La modélisation montre que les ménages qui s'électrifient entièrement pourraient réduire leurs factures jusqu'à 70%. Madame Lee, elle, conteste cette analyse. Elle estime que la modélisation climatique indépendante est un vrai canular cruel.
Australians right now are very disappointed. They're disappointed that the government talks a big game about manufacturing and made in Australia, but actually doesn't deliver. And all my colleagues today, including you, John Seely, have reflected that we do recognise Australia's role in reducing global emissions. We do understand that common sense policies should be implemented and they should be done in a way that makes sense for our economy, because we can't do everything from Australia, but we do have a role in participating in that global challenge. But what the Prime Minister has announced with respect to these 2035 targets certainly goes nowhere near that.
La chef de l'opposition, Susan Lee, est sous pression pour définir la politique du parti en matière de changement climatique, plusieurs membres du parti faisant pression pour que celui-ci abandonne complètement l'objectif de zéro émission nette d'ici 2050. Le porte-parole de l'opposition en matière d'éducation, Jonathan Dunham, avertit en début de semaine que la coalition serait confrontée à un exode massif de ses membres de premier plan si elle adoptait une politique de zéro émission nette sans réserve. Madame Lee a été contrainte de clarifier ses propos tenus lors d'une conférence de presse vendredi où elle avait déclaré ne pas croire en la fixation d'un objectif de réduction des émissions, que ce soit par l'opposition ou par le gouvernement. Elle a ensuite déclaré s'être mal exprimée.
We don't support targets in opposition. We do, of course, recognise the importance of targets in government when we have the full information in front of us, which we don't have now.
Le Premier ministre Anthony Albanese, lui, affirme que tandis que l'opposition se dispute pour savoir si elle va ou non poursuivre l'objectif de zéro émission nette, son gouvernement, lui, s'y attelle déjà.
The Liberal Party are too busy fighting each other, too busy looking over their shoulders, too busy arguing with each other to argue for the interests of Australians. And today's bizarre statements by the leader of the Liberal Party, where she walked away from setting any targets as are required by the Paris Agreement, says it all about how their focus is simply on their internals.
Si on reconsidère les choses, je ne suis pas ton idéal. Écoute ce que je te propose, descends-moi de mon piédestal.
Vous avez sûrement reconnu la chanson « Toutes les femmes de ta vie » qui vient des L5 il y a plusieurs années déjà. Et bien là, c'était une reprise interprétée par Julien Doré. Allez, on passe à la suite. Il est en tournée nationale. Le musicien de jazz Chris Cody nous parle de ses concerts à venir. Le premier, c'est demain à Melbourne.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Nous avons le plaisir d'avoir Chris Cody, le musicien de jazz franco-australien. Bonjour et bienvenue sur SBS French.
Bonjour Jean-Noël et merci de me recevoir.
Chris, on va parler de vos prochains concerts et une première car vous venez, d'après ce que je comprends, à Melbourne pour la toute première fois.
Oui, c'est pas pour la toute première fois. Je suis né à Melbourne, mais quand je suis en Australie, j'allais souvent à Melbourne. On a déménagé à Sydney quand j'avais 12 ans, et après je suis allé vivre en Europe, en France. Mais même quand je revenais de la France pour des concerts en Australie, j'allais toujours à Melbourne. Donc ça va être la première fois depuis.
Un petit moment.
Covid, je crois. C'est-à-dire que ça fait un petit break quand même de 4-5 ans où je ne suis pas allé à Melbourne pour faire un concert. Donc j'ai hâte de redécouvrir mes amis là-bas et mon public à Melbourne.
Et donc, vous serez, d'après ce que je comprends, au Jazz Lab le 5 octobre prochain, c'est un dimanche ?
Exact. Oui, le Jazz Lab, c'est un peu l'ancien Bennett's Lane, pour ceux qui connaissaient Bennett's Lane, ouais. Un club presque légendaire à Melbourne. Oui, c'est à 27 Leslie Street, Brunswick, dans le nord de Melbourne. Et je joue la musique que j'ai enregistrée. J'ai fait un album qui s'appelle Mountain to Sea, de la montagne à la mer. Je vais jouer cette musique-là. À Sydney, le groupe, c'est avec Sandy Evans, Lloyd Swanton et Tess Overmyer. Mais à Melbourne, c'est avec les plus grands musiciens de Melbourne. Julian Wilson, au sax ténor, Flora Carbo, avec qui je n'ai pas encore joué, au saxo alt. Et Sam Anning, que je connais à la contrebasse. Donc c'est un quartet sans batteur, ce qui est intéressant avec la musique. Et ça aide la musique à respirer. La musique a été conçue pour être jouée sans batterie. Normalement, dans des quartets de jazz, on va de la batterie, mais cette fois-ci, non. Et donc, dans nos concerts, on a trouvé que c'est super. Ça change subtilement notre façon de jouer peut-être un peu plus rythmiquement, mais plus à l'écoute des autres. Donc, j'ai envie de voir comment ça va se passer avec ces super musiciens melbourniens.
Et est-ce que vous allez présenter des nouveautés également, autres que Mountain to Sea?
Oui, parce que c'est la musique. Donc, il y a une base de morceaux. C'est comme une suite, si on veut. Mais en même temps, j'ai conçu cette musique pour avoir aussi des contributions solo de chaque musicien. Et ça, c'est un moment pour le musicien de créer quelque chose spontané, improvisé, dans le moment, et ça, c'est la nouvelle musique, en fait. Donc, ça change énormément de concert en concert. Des fois, ça peut être moi au piano, j'attaque un morceau très énergétique. D'autres fois, c'est très calme, très lyrique. Pareil avec les saxophonistes et le contrebassiste. Donc, c'est très varié, en fait. C'est vraiment, la musique est conçue, donc le titre, de la montagne à la mer, comme un voyage imaginaire, qui traverse des paysages différents. C'était une réponse pour à ce monde assez turbulent et des fois violent dans lequel on se trouve en ce moment.
Et donc, est-ce que ce sera un seul et unique concert que vous donnez à Melbourne?
Oui, cette fois-ci, c'est un seul concert. Des fois, oui, il y a plusieurs concerts, mais cette fois-ci, c'est juste pour un concert. En même temps, avant et après, je vais profiter pour aller voir mes amis de la famille là-bas.
Un petit retour en arrière, Chris, pour les deux concerts de Sydney. Le 24 septembre, c'est à Jazz Club, à Jazz Upstairs, et ensuite, le 25 septembre, c'est à Johnston Street Jazz Club.
Oui, et ça, c'est deux concerts différents aussi. Le 24 septembre, à St. Stephen's Church, dans la City, Macquarie Street, Sydney. Ça, c'est avec le groupe habituel, Sandy Evans, Lloyd Saunders, etc. Mais cette fois-ci, on a rajouté un batteur, Nick Cecire, parce que le saxophoniste alto n'était pas disponible. Donc ça va être intéressant. On s'est produit dans cette formation-là aussi pour un concert que j'ai fait récemment à Paris, au mois de juillet. Et donc, malgré tout ce que je viens de dire, que la musique a été conçue pour être jouée sans batteur, etc., c'était très intéressant avec un batteur, parce que le batteur à Paris et également ici à Sydney peut également nous pousser à jouer encore une fois un peu différemment. Ça rajoute forcément des grooves, mais aussi je demande au batteur de jouer en dehors de son rôle habituel, de ne pas simplement être un batteur, un gardien du temps, de rythme, et d'essayer d'être assez créateur et créatif. Donc ça va être très intéressant. Et puis le jeudi 25 septembre, je joue à Johnston Street Jazz à Annandale, à Sydney. Et là, c'est notre formation. Là, c'est en duo. C'est moi au piano et puis un créateur de son, un artiste de son, Charlie Tate, qui traite les sons. Donc ça, c'est sa spécialité. Il est très doué. Il fait donc une musique qui rajoute des sons électroniques, mais en même temps, il aussi capte le son de piano. Il le traite, il change le timbre et il le renvoie. Parfois en écho, ou très distant, ou avec un peu de délai, ou avec de réverbération, etc. Et donc, ça crée des paysages sonores très originaux, assez chargés émotionnellement, où on traverse des mondes différents, du calme au militaristique, très lyrique, romantique, plutôt funk. Et il y a des grooves, il peut prendre un son de piano, par exemple, et le transformer en battement de grosses caisses de batterie. Donc, et c'est une musique entièrement improvisée. Donc, pour préparer pour ce concert, on se voit régulièrement. Là, je l'ai vu hier, je vais le voir demain, et après-demain. Et je travaille dans son studio à Newtown. Et on fait des répétitions de concerts dans l'état, où on crée, on improvise directement et on voit ce que marche pas. Donc c'est vraiment basé sur notre écoute, notre confiance l'un à l'autre, etc.
Et puis, si je ne me trompe pas, je crois que vous étiez en Europe récemment, vous aviez donné des concerts en France, c'est ça?
Oui, j'ai joué en France, j'étais à Paris au mois de juillet. C'était super de retrouver des copains, des musiciens que je connais depuis longue date, depuis que j'ai vécu 20, comme vous savez, j'ai vécu 22 ans à Paris. Et donc j'ai réuni des musiciens avec qui je joue régulièrement. David Lewis, je pense que vos auditeurs le connaissez par oui, Paris Combo, et d'autres groupes encore. Donc lui joue à la trompette. Il a une grande expérience avec des musiciens africains comme Manu Dibango, Salif Keita, etc. Et puis, bien sûr, Paris Combo. Un saxophoniste, John Handelsman aussi, qui était l'arrangeur pour Manu Dibango, qui a joué énormément dans le jazz et le monde africain à Paris. À la contrebasse, c'était Bruno Rousselet, qui a joué sur plusieurs de mes albums que j'ai produits en France. Et à la batterie, Jeff Boudreau, qui est américain, de New Orleans, donc son nom Boudreau, qui sont très français quand même. Et lui, il a joué avec tous les frères Marsalis, tous les grands noms du jazz aux États-Unis et en Europe. Donc c'était un super concert. On a joué au centre culturel Le Loup Pascalou, qui est un centre culturel dans le 20e arrondissement à Paris. Pour ceux qui connaissent Paris, ça s'appelle Menelmonton, le quartier. Et c'est un quartier très populaire avec beaucoup d'immigrés africains, arabes. Et il y a beaucoup de choses très intéressantes qui se passent dans ce quartier. J'ai joué aussi à la Cadière dans le sud de la France. Et après, je suis allé en Grèce. Où si j'étais resté un peu plus, justement, je connais des musiciens à Paros, sur l'île de Paros, qui a 4 heures de bateau d'Athènes, où il y a un super festival qui se passe tous les ans. Je vais lui faire un peu de publicité dans les arènes grecques anciennes, et c'est magnifique, le cadre avec la mer derrière, le coucher de soleil. Donc je compte y aller l'année prochaine pour y jouer à Paros, le festival de jazz de Paros. Et c'était super d'être en Europe, retrouver ses copains, ses musiciens, la vie européenne, en même temps d'être près de la Méditerranée, c'est une vie qui me plaît énormément et qui me plaira toujours, je crois.
J'imagine que vous avez beaucoup de projets en chantier, d'autres concerts, de nouveaux albums à venir.
Oui, ça continue. Heureusement, la vie continue. Malgré, il y a des moments que des fois on se demande, mais qu'est-ce que se passe avec ce monde? C'est pas possible. Il y a des hauts et des bas, mais pour moi, ça fait partie de mon identité. Donc, je suis toujours en train de travailler le piano, créer des compositions. Pour l'instant, je sais pas exactement le prochain album. Qu'est-ce que ça va être? Peut-être un nouveau album avec Charlie Tate, le duo piano électronique. Peut-être encore un quartet, je ne sais pas encore, mais je commence à réunir mes idées et composer des choses. On verra qu'est-ce que ça va donner. Mais c'est sûr, normalement, l'année prochaine, il y aura une nouveauté à annoncer.
Toujours un plaisir de vous avoir sur SBS French, Chris Cody.
C'est toujours un plaisir pour moi aussi de parler avec toi. Et j'espère que tu peux venir, Jean-Noël, au concert.
Absolument.
Au Jazz Lab, parce que ça me ferait énormément plaisir. Et pour vos auditeurs aussi, venez au Jazz Lab le 5 octobre, ça serait super. Je vous dirai bonjour, je viendrai avec des albums aussi pour ceux qui veulent découvrir un peu plus la musique que j'ai décrite.
Absolument. Merci à vous et à très bientôt.
Oui, merci. À bientôt. Au revoir.
C'était Chris Cody après son interview au micro de Jean-Noël Dicasse. Allez, restez sur SBS French, on va essayer de comprendre ensemble les droits fonciers du peuple aborigène ici en Australie. La terre est au cœur de l'identité, de la culture et du bien-être des aborigènes et des insulaires du détroit de Torres. Connue sous le nom de Country, elle englobe la terre, les voies navigables, le ciel et tous les êtres vivants. Et dans cet épisode d'Australia Explained, nous examinons les droits fonciers autochtones, ce qu'il recouvre, les terres concernées, qui peut faire une demande et l'impact sur les communautés des Premières Nations. Reportage.
Vous avez peut-être entendu le slogan « Que voulons-nous ? Des droits fonciers ». Mais quelle est la profondeur de ce slogan ? Bien, la terre est au cœur de l'identité, de la culture et du bien-être des peuples aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit de Torres. Connue sous le nom de « Country », elle englobe les terres, les cours d'eau, le ciel et tous les êtres vivants. Dans cet épisode d'Australia Explained, nous explorons les droits fonciers autochtones. De quoi s'agit-il? Quelles terres sont concernées? Qui peut en faire la demande? Et quel est leur impact sur les communautés des Premières Nations? Pendant des années, le lien des peuples aborigènes et insulaires du détroit de Torres avec leurs terres n'était pas reconnu. Plus récemment, des lois sur les droits fonciers ont été créées pour leur donner un contrôle légal sur leurs terres traditionnelles. Avant la colonisation, ces peuples vivaient et prenaient soin de leurs terres depuis des dizaines de milliers d'années. Mais la colonisation a pris des terres sans accord en s'appuyant sur l'idée fausse des terra nullius, c'est-à-dire terres n'appartenant à personne. Le mouvement pour les droits fonciers a pris de l'ampleur en 1966 avec la grève de Wave Hill. Ensuite, en 1967, un référendum national a permis au gouvernement de légiférer pour les autochtones et de les inclure enfin dans le recensement national. En 1976, la loi sur les droits fonciers aborigènes dans le territoire du Nord a été adoptée. Ce territoire fut le premier à reconnaître les revendications foncières traditionnelles. Et si certains États disposent de leurs propres lois sur les droits fonciers des peuples premiers, il n'y a pas d'équivalent au niveau fédéral. Dans les différents États, des conseils fonciers ont été mis en place pour représenter les peuples aborigènes et insulaires du détroit de Torres et gérer les terres qui leur ont été restituées. Il faut préciser que les droits fonciers concernent uniquement les terres publiques, les terres domaniales, mais jamais les propriétés privées. Ces terres ne peuvent être ni vendues ni hypothéquées. Elles sont détenues en fiducie pour que les Premières Nations puissent en prendre soin et décider de leur avenir. En évoquant la prise de décision des Premières Nations, la docteure Virginia Marshall, femme Wiradjuri Nyemba et experte en droit de l'eau, explique la profonde signification de ce lien avec la terre et l'eau.
The water speaks to us, or the trees speak to us, but we don't need to take on a Western environmental ideology and dialogue that isn't based in our understanding and our law and our understanding of our creation story.
Pour clarifier, droits fonciers, titres natifs et traités sont souvent évoqués ensemble, mais ils représentent des réalités différentes. Les droits fonciers sont des lois qui permettent aux communautés aborigènes et les insulaires du détroit de Torres de récupérer certaines terres, généralement gérées par des conseils fonciers pour soutenir ces communautés. Le titre natif lui reconnaît que certains peuples ont encore des droits sur leurs terres et eaux selon leurs lois et coutumes traditionnelles, perpétuées depuis des millénaires. Et enfin, le traité est un accord formel entre un gouvernement et les Premières Nations. Des traités avec les Premières Nations sont déjà en vigueur en Nouvelle-Zélande et au Canada, mais toujours en projet en Australie. Ces accords visent à apporter justice, reconnaissance et un changement réel. Le retour des terres permet aux communautés de retrouver leur langue, leur culture et leur country et contribue à l'habitat, à la santé et à l'indépendance économique. La docteure Marshall explique.
Need to be self-determining, whether it's leading a committee, leading research, leading new ideas, forging new opportunities and partnerships in technology, and also health.
L'impact réel des droits fonciers est profond. Le conseil foncier local aborigène Darkinjong, fondé grâce à la loi sur les droits fonciers aborigènes de Nouvelle-Galles du Sud, est un exemple pertinent. Oncle Barry Duncan, homme Gameroy, fait partie des fondateurs de Darkinjong, créé dans l'arrière-cour de ses parents en 1983.
It meant for me is that it brought this community together. It was a way about getting land back in the invested back in the Aboriginal ownership.
Au fil des années, Oncle Barry a vu comment les droits fonciers ont contribué à renforcer l'autonomie et le pouvoir économique de sa communauté de la Central Coast. Il explique.
I think the future now is that when the original land rights got handed down, there was a lot of talk from non-Aboriginal people about how we're going to take their backyards, claim really stuff that was said that about us that was a lot of detriment. But now people know that I think in this generation that we are very wise and smart with land holdings.
Il est essentiel de comprendre que le fait d'accorder des droits fonciers aux Premières Nations ne se traduit pas par une perte de maisons ou des biens fonciers par les non-autochtones. Les droits fonciers des Premières Nations ne s'appliquent qu'à des terres publiques spécifiques, pas aux propriétés privées. Il s'y est de préciser qu'il s'agit de rendre des terres aux communautés autochtones qui ont un attachement reconnu, souvent historique ou culturel. Les défis demeurent avec un processus parfois lent et complexe, ainsi que des terres limitées. Les droits fonciers sont liés à la justice, à la réconciliation et à la reconnaissance de la souveraineté autochtone. Pour ceux qui découvrent l'Australie, comprendre les droits fonciers est une manière de mieux saisir l'histoire profonde du pays. Il ne s'agit pas de perdre la terre, mais de reconnaître et de restaurer un lien unique qui unit les Premières Nations à leur terre depuis plus de 60 000 ans. Cet épisode d'Australia Explained a été réalisé par Nikaya Hutching. Je m'appelle Bertrand Tungandami.
C'est la fin de cette émission, messieurs, dames. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous rappelle l'actualité principale. La France et l'Australie, ainsi qu'une dizaine d'autres pays, reconnaissent l'État de Palestine. Votre prochain rendez-vous avec le français, c'est jeudi, même fréquence, même heure. Je vous souhaite de passer un merveilleux mardi après-midi. Au revoir, messieurs, dames.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/SBS French.